Je vous invite à ouvrir maintenant la parole de Dieu, puisqu'on n'est pas encore au ciel, puisqu'on a encore besoin d'apprendre à aimer le Seigneur. On va donc se mettre à son écoute. Je vous invite à ouvrir donc vos Bibles dans la première lettre de Jean, et donc à partir du chapitre 2, le verset 3. Donc première lettre de Jean. Chapitre 2, verset 3. On est dans une série, donc vous savez, dans cette lettre, et on va bientôt faire la lecture donc, de ce passage. J'ai trouvé, ça m'a frappé ces dernières semaines, c'est intéressant qu'au mois d'octobre, surtout en Provence, on peut voir le soleil se lever donc à des heures un petit peu plus raisonnables, hein, des heures où on est dehors. En été, c'est trop tôt. Puis après, bientôt, ça va être l'hiver, et puis là, il va falloir attendre longtemps avant de le voir se lever. Donc c'est peut-être votre cas que cette semaine, en partant au boulot, ou en emmenant les enfants à l'école, ou en allant faire vos courses, vous avez vu l'aube, vous avez vu le soleil se lever, et les ténèbres faire place de plus en plus à la lumière rayonnante du soleil. C'est cette même image, en fait, que Jean va utiliser dans notre passage ce matin pour décrire ce qui se passe en ce moment même, dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église, dans la vie de la communauté chrétienne authentique. Et donc, à nouveau, Jean n'est pas en train de parler juste à des individus isolés, mais à des personnes qui sont en communion les uns avec les autres, au point qu'ils peuvent s'appeler des frères et des sœurs. Donc, vous voyez le niveau d'intimité, n'est-ce pas, que l'Évangile produit. Et donc c'est non seulement personnellement que nous pourrons retirer des choses de ce passage ce matin, mais aussi en tant que communauté que nous devons réfléchir. Comment est-ce qu'on va appliquer ces choses dans notre vie en commun? Et donc la raison du titre de cette prédication, c'est la communauté chrétienne authentique. Et on va voir comment cette communauté se caractérise par une vie qui est celle de Christ. Elle vit comme Christ a vécu. Et la deuxième chose qu'on va voir, elle aime comme Christ a aimé. Et juste pour faire un petit récapitulatif aussi de ce qu'on avait vu la dernière fois, puisque toutes les choses s'enchaînent et tout tient avec ce qu'on avait vu dans le message fondamental du verset 5, chapitre 1. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et on a vu donc, on est en train de voir comment ça va façonner, caractériser la communauté chrétienne authentique. Et la première chose qu'on avait vue la semaine dernière, c'est que cette communauté chrétienne, donc authentique, s'attache à l'enseignement des apôtres. Donc leur témoignage est véridique, ils étaient là, ils ont vu, ils ont entendu. Et on peut mettre donc notre confiance dans tout ce qu'ils ont écrit, c'est-à-dire le message qu'ils ont entendu de Christ lui-même. C'est ça le fondement de notre communion les uns avec les autres et tous ensemble avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et la deuxième caractéristique qu'on avait vue la semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt, au sein de cette communauté, c'est que les chrétiens ne disent pas qu'ils ne pêchent pas. Ils ne disent pas, nous n'avons pas de problème avec le péché, nous avons fini avec ça. Ils ne pensent pas qu'ils n'ont pas de péché, les chrétiens authentiques. Au contraire, ils reconnaissent leur péché. Ils le regardent en face. En fait, ils montrent qu'ils sont en lutte contre le péché. Et ils ne veulent pas agir à la légère vis-à-vis du péché. C'est-à-dire de toute action, de toute pensée, toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle qui nous avait réchauffé le cœur il y a 15 jours, c'est que le pardon est possible. Donc, puisque nous devons reconnaître notre péché, mais s'il n'y a pas d'issue, c'est terrible. Mais on avait vu ça, le pardon est possible par Jésus-Christ. Lui, le juste, le Fils de Dieu est venu en personne pour enlever nos péchés, détourner de nous la colère de Dieu. Cela, il l'a fait en prenant sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous du fait de notre rébellion contre Dieu. En mourant à la croix, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres, comme nous dit Tite, au chapitre 2, verset 14. Et on l'a encore relu, si vous étiez là cette semaine dans les groupes de partage, dans l'évangile de Marc. N'est-ce pas que c'est incroyable ce que Christ a fait pour nous? Alors ce pardon qui est possible en Jésus-Christ n'enlève pas cependant l'obligation morale d'obéir au commandement de Dieu. Ce n'est pas parce que nous pouvons être pardonnés que nous ne nous soucions pas ou plus de la façon dont nous vivons, comme si cela n'avait pas d'importance. Jésus-Christ est juste. Et donc, si nous sommes au bénéfice de son œuvre à la croix, si nous sommes en communion avec lui, nous pouvons et nous voulons aussi voir grandir en nous sa justice, la justice parfaite de Dieu. Nous voulons vivre comme lui a vécu, nous voulons aimer comme lui a aimé. C'est ce que nous allons lire maintenant dans ce chapitre de Jean. Donc Jean chapitre 2 verset 3 et on va lire jusqu'à 13. Jean dit ceci. À ceci, nous savons que nous le connaissons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres passent, et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Prions encore. Seigneur, de nouveau avec les paroles du chant, nous voulons te demander de nous apprendre à t'aimer, à aimer ta parole, à aimer ta venue et aussi à aimer nos frères et nos sœurs. Seigneur, fais-nous progresser dans ce domaine encore, nous t'en prions, par cette prédication, par les encouragements que nous pouvons nous donner les uns les autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Une grande question quand on lit la première lettre de Jean, c'est de savoir quel était son but, dans quel sens il écrit tout ça. Il semble qu'il y a deux tendances qui ressortent un peu. Le souci pastoral de l'apôtre Jean, qui cherche à rassurer les chrétiens à qui il écrit. Et en même temps, il y a quand même cette idée de test, il faut évaluer les choses. Est-ce que les deux objectifs sont incompatibles? Si on veut rassurer quelqu'un, on ne lui fait pas passer un examen, ou en tout cas, ça semble un peu bizarre. Je ne sais pas comment vous vous sentiez au moment où vous êtes arrivé au BEP ou au bac ou au permis de conduire ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément rassurant d'emblée un examen. Sauf si on est bien préparé pour répondre. Sauf si on est capable de répondre. On tourne la feuille qui était là, top départ, et puis on découvre les questions. Bon, après une première sueur froide un peu, ah oui, ça c'est bon, là, je sais. Ah là, j'ai la réponse, c'est bon. Et donc, en fait, on peut ressortir d'un examen aussi encouragé, assuré. Ben, c'est bon, j'ai maîtrisé la matière qu'on m'a enseignée, je la comprends, je suis capable de la restituer. Et ça peut nous donner des grandes certitudes, une grande force. Et c'est un peu avec cette image-là que j'aimerais vous montrer comment Jean, il fait les deux choses. Bien sûr, il nous demande d'évaluer, de nous examiner nous-mêmes, mais en même temps, il a confiance qu'on ne va pas être bousculé par cela, qu'on va pouvoir retirer de l'assurance dans cela. Et c'est un peu le sens d'avoir inclus les versets 12 et 13. « Je vous écris ». En fait, si on regarde dans le grec, « je suis en train de vous écrire ça, les amis. parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc Jean, il n'est pas en train de douter que l'action de Dieu est en train d'avoir lieu dans la vie de ces chrétiens qu'il est en train d'écrire. Je vous écris père, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le Christ dès le commencement, et puis là on est encore au premier siècle, donc il y en a qui ont été parmi les premiers à croire au Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Et il leur écrit, parce que vous connaissez, il n'y a pas de doute là, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ils sont en communion avec Dieu. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais par la foi que vous avez mis dans l'Évangile. Vous avez vaincu le mauvais, c'est fait. Et donc il est en train d'écrire dans ce sens-là. Regardez aussi comment il cherche à rassurer au verset 3 et au verset 5. À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. À ceci, nous savons que nous sommes en lui, si nous gardons sa parole. C'est qui le lui, là ? C'est qui ses commandements ? C'est les commandements de qui ? Si on remonte juste un peu avant ça, au début du chapitre, au verset 2, on voit qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit des commandements de Jésus-Christ, de sa parole à lui. Et donc, il s'agit de le connaître lui, d'être en communion, en relation étroite avec lui. Et quel est le test, si vous voulez ? Quelle est l'évaluation ? D'où est-ce que ça peut venir une telle certitude, une telle assurance ? C'est en gardant ses commandements, en obéissant à sa parole. Vous voyez le lien très direct, peut-être choquant dans un sens, que Jean est en train de faire entre connaître Christ et obéir à Christ. L'obéissance découle du fait de connaître Christ. Il y a un lien nécessaire, obligatoire, entre connaître Christ et obéir à ses commandements. Si je veux redire encore ça d'une autre manière, connaître Christ, ça va produire l'obéissance chez tous ceux qui sont attachés à lui. Et c'est une connaissance qui n'est pas théorique. Une connaissance théorique ne peut pas produire ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui ont un discours sur la Bible, qui ont un discours sur Jésus-Christ, qui ont un certain nombre de connaissances bibliques, peut-être même plus que certains chrétiens. Et pourtant, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas en relation avec Christ. Si vous voulez, c'est un peu la même chose qu'un pompier. Le pompier, il connaît le danger du feu. Mais ce n'est pas juste théorique, c'est parce que chaque jour, il doit affronter cette réalité-là. Et donc, cette connaissance, elle va avoir un impact sur lui. Il va faire attention, il connaît les gestes qu'il faut faire et les gestes qu'il ne faut pas faire. Il y a une connaissance qui est théorique et expérimentale. Dans un sens positif, non, pour nous. Si nous connaissons réellement Dieu, cela va aussi avoir un impact sur notre vie. Et cela va produire l'obéissance. Et en fait, la deuxième connexion qu'on voit ici, c'est que comme on obéit, on est en train d'expérimenter justement donc cette relation avec le Seigneur, cela nous donne de l'assurance. Donc il y a un lien entre le fait de connaître Christ qui va produire l'obéissance et le fait de se voir en train d'obéir produit pour nous l'assurance que nous sommes bien en relation avec Christ, qui est une excellente chose, n'est-ce pas ? Et donc l'exigence qui vient après cela, donc à la fin du verset 5, celui qui dit demeurer en lui doit, c'est un impératif, doit aussi marcher comme lui a marché, découle de ces deux choses ensemble. Alors certains pourraient vouloir contester ici en disant « Mais l'apôtre Paul ou tout le reste de la Bible nous parle de la justification par la foi seule. C'est pas qu'on a besoin de faire des choses pour mériter la compassion de Dieu, c'est que Dieu nous a fait grâce et il nous permet par la foi d'obtenir le salut. » Paul, dans sa lettre aux Romains, doit faire face à des gens qui disent « Ben voilà, puisque c'est la grâce, puisque c'est la foi seule, on n'a pas besoin d'obéir. Même, on pourrait pécher comme ça, ça va faire encore plus abonder la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Ça va devenir encore plus manifeste. » Et voyez comment il retourne la chose. Et Paul, il est très ferme, il conteste ça. Il dit « Non, certainement pas, on ne va pas continuer à pécher. on a été transformé, on a été changé. Justement, puisque le salut nous est donné, puisque c'est une grâce, puisque ça nous est, oui, nous, ça nous est donné, alors nous pouvons vivre dans une vie qui est complètement nouvelle. De même, Jacques, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, il fait ce lien aussi étroit. Tu dis que tu as la foi ? Ben c'est très bien, ben montre-le au moins par tes œuvres. Et donc, Jean ici, avec Jacques, avec Paul, ils sont tous les trois d'accord, ces apôtres, en train de dire la même chose. Celui qui dit qu'il appartient à Christ va obéir à Christ. Et donc, le verset 4, on voit la chose tourner dans un autre sens. Celui qui dit qu'il appartient à Christ, mais qui ne lui obéit pas, c'est un menteur. Point barre. Et c'est pas juste que c'est un mensonge ou une petite série de mensonges, mais c'est que la vérité n'est pas dans cette personne. C'est-à-dire, cette personne n'a pas reçu cette vérité, n'a pas reçu la vie de Christ, n'est pas transformée, n'est pas changée. Et en fait, c'est bien logique, donc. Celui qui est en communion avec Dieu, il a son cœur transformé, capable d'obéir. Celui qui n'a pas en communion avec Dieu, il reste toujours rebelle à Dieu. Il n'est pas ramené dans la famille de Dieu. Son péché n'est pas pardonné. Et donc, il ne peut pas obéir. Alors, celui qui dit « demeurer en lui » doit aussi marcher comme lui a marché. Celui qui est chrétien va forcément vivre une vie qui ressemble à celle de Christ. Une petite application à ce stade-ci, ça implique de connaître comment Christ a vécu. Et donc, c'est important pour nous que nous lisions les évangiles, que nous observions comme des témoins privilégiés grâce à ce que les apôtres ont mis par écrit de ce qu'ils ont vu, entendu. Comment est-ce que Jésus répondait ? Comment est-ce que Jésus parlait ? Comment est-ce que Jésus agissait vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des chefs religieux, vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des femmes de mauvaise vie, vis-à-vis des femmes de bonne société, vis-à-vis des riches ? Comment est-ce qu'il agissait avec tous ceux qui étaient autour de lui ? Observons donc attentivement les paroles, les attitudes de Jésus. Pour marcher comme lui a marché. Et c'est là que c'est important d'arriver au verset 7 et 8, où l'apôtre Jean nous parle d'un commandement ancien et en même temps nouveau. Peut-être vous êtes un peu perplexe, comment est-ce qu'il peut dire les deux choses en même temps ? Je vais essayer d'expliquer, j'espère que je vais réussir. En fait, le commandement ancien, c'est une bonne chose qu'il soit ancien. C'est-à-dire que Jean n'est pas en train d'arriver maintenant en voulant mettre un fardeau supplémentaire aux chrétiens à qui il est en train d'écrire. Ah, au fait, écoutez, moi j'ajoute une règle nouvelle, donc sachez qu'il faut aussi aimer son frère et sa sœur. Parce qu'on va voir que c'est ça qu'il a en tête. Vous avez remarqué qu'il parle de suivre les commandements de Dieu, ça c'est au verset 3, et puis maintenant ça, il se concentre, il se focalise sur un commandement parmi tous ces commandements en particulier, celui d'aimer son frère et sa sœur. Alors, c'est une bonne chose que c'est un commandement ancien et pas une nouveauté que Jean vient rajouter à la fin du 1er siècle. C'est dans la continuité donc de ce que Jésus a enseigné et de ce que donc les premiers chrétiens ont entendu, dans lequel ils ont été enseignés dès leur conversion. Vous vous rappelez cet ordre du Seigneur, l'ordre missionnaire par excellence, Matthieu 28, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et parmi ce tout ce que je vous ai commandé, il y a celui-là que Jean est en train de mettre en avant. Les apôtres, Jean ici, n'a rien inventé. Il ne s'agit pas d'un commandement pour les chrétiens de deuxième niveau. Ok, c'était bien pour les débutants, maintenant vous voulez passer deuxième classe ? Vous voulez monter en grade ? Voilà, moi je vous rajoute quelque chose de nouveau. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Peut-être que, par contre, c'était l'attitude des faux enseignants qui étaient en train de sévir dans les communautés chrétiennes à qui Jean est en train d'écrire. Eux, ils avaient apparemment des systèmes comme cela. Ok, c'est bien, tu as fait ça jusqu'à maintenant, tu veux progresser, fais ceci en plus, fais cela en plus. Il propageait des doctrines nouvelles. Et donc Jean, il incite, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien en fait. Vous l'avez déjà entendu. Donc je ne fais que vous rappeler des bonnes choses que vous avez déjà entendues. Et vous avez remarqué, donc, comme il se concentre sur un commandement en particulier. Ça revient à maintes reprises dans sa lettre, l'insistance sur ce commandement en particulier. C'est celui qui est donné par Jésus aux 11 disciples, réunis pour le dernier repas, juste après le départ de Judas. On lit ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 34. Vous pouvez, si vous voulez, juste faire un petit saut là. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus lui-même, il parle donc à ses disciples et il dit, juste avant la croix, d'accord, il dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Et la particularité ici, c'est comme je vous ai aimé. Donc c'est sur ce commandement-là, que Jean fixe maintenant son attention. C'est sur ce même commandement qu'il revient à plusieurs reprises dans sa lettre. Pourquoi est-ce que c'était si important pour lui? Parce que c'est quelque chose qui va fonder aussi tout le reste, je pense, de notre obéissance. Une application juste de cela, c'est de se poser la question, est-ce que de nos jours, ce commandement-là en particulier ne serait pas un peu passé à la trappe? Quand vous êtes venu à la foi, quand des gens vous ont expliqué l'évangile, est-ce qu'ils vous ont aussi enseigné que cela allait impliquer, qu'il allait falloir, entre guillemets, on va voir dans un instant comment c'est nouveau et qu'il ne s'agit pas juste d'une règle, qu'un légalisme, d'accord, mais que ça allait impliquer d'aimer son frère et sa sœur. Il y a des personnes sans église autour de nous qui estiment qu'elles peuvent vivre leur vie indépendamment des autres chrétiens. Peut-être une tendance qui pourrait s'accentuer avec l'accès à des sites internet où on peut dire bah, « moi c'est bon, je vais piocher ma nourriture là-bas ». Certains sites sont des très bonnes qualités et donc il y a des bonnes ressources et il faut qu'on en profite sur internet. Et si c'est justement fidèle à l'enseignement des apôtres, ces prédications ou ces lectures que vous pourriez faire sur Internet, elles vont sans cesse vous ramener vers votre église locale pour vous dire c'est important qu'on s'encourage les uns les autres. C'est important d'aimer véritablement son frère et sa sœur, de se rassembler avec d'autres. Mais il y a aussi d'autres qui ne vont pas encourager dans ce sens-là, malheureusement. Un ami pasteur en Belgique m'a appelé justement cette semaine. Et un couple de l'assemblée avait commencé depuis quelque temps à ne plus venir aux rencontres de l'église. Et puis, ils lui ont annoncé en fait qu'ils partaient pour nulle part. Et la raison, c'était qu'ils avaient écouté des prédications sur Internet qui les convainquaient que c'était... Que c'était la bonne chose à faire, qu'on pouvait vivre sans l'église. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Je m'adresse aux frères et sœurs, au monde ici chrétien de l'EPEC. Je me demande si dans notre évangélisation alors, celle de l'Église, de l'EPEC au sens large, à notre époque, nous n'oublions pas d'enseigner ce commandement du Seigneur. Chaque époque a ses forces et ses faiblesses. Dans chaque époque, l'Église a ses forces et ses faiblesses. Peut-être qu'une des faiblesses de l'Église du XXIe siècle, c'est ce manque-là d'enseignement sur l'amour des frères et des sœurs. Il y a beaucoup de... On doit lutter contre l'individualisme dans la société et ça risque de grignoter notre détermination à mettre en œuvre ce commandement du Seigneur. Donc à nous, à moi, à nous tous, Église de Cavaillon, d'être en tout cas exemplaires sur ce plan. Donc c'est un commandement ancien et je vous ai expliqué comment c'est, parce que c'est dans la continuité de ce que Christ a dit, a annoncé, et comment c'est dans la continuité de ce que les premiers chrétiens avaient déjà commencé à vivre. Lisez Actes 2, 42 par exemple. Mais aussi, c'est un commandement nouveau. Parce que la manière dont nous allons pouvoir le vivre, justement, c'est pas juste qu'on va retrousser les manches et puis on va dire nous le pouvons et puis on va le faire avec nos propres forces. Mais nous lisons Au verset 8. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, parce qu'il est vrai en lui, en Jésus-Christ et en vous. Et donc, la venue de Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire. C'est l'aube d'une nouvelle ère. C'est la lumière qui vient de Dieu, puisque Dieu est lumière, on l'a vu au verset 5 du chapitre 1, qui est en train de briller dans nos cœurs, qui est en train de nous façonner, qui est en train de nous rendre capables de vivre d'une manière tout à fait nouvelle ce commandement. Voyez ça à la fin du verset 8, « Car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. » S'il dit « déjà », c'est qu'on on devrait être surpris que c'est déjà là, alors que ça devrait être quelque chose qu'on attendait pour un peu plus tard. Et je voudrais faire juste la lecture de deux versets, dans Ésaïe, au chapitre 60, versets 2 et 3. On voit que, justement, cette lumière, c'est la lumière de Dieu. C'est le fait d'être dans la présence de Dieu. Et pour Ésaïe, c'est quelque chose qui est encore loin dans l'avenir. Il dit ceci, « Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Il est en train de parler au peuple de Dieu. « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Tu n'auras plus le soleil pour lumière pendant le jour, ce ne sera plus la lune qui t'éclairera de sa clarté, c'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours, c'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car c'est le Seigneur qui sera ta lumière pour toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. » Il est en train de parler du temps à venir encore, où dans la présence de Dieu, on n'aura plus besoin de soleil ou de lune ou des lampes électriques. On aura Dieu lui-même qui sera notre lumière. De même, dans Apocalypse 21, ça nous parle de la Jérusalem céleste, le lieu de rassemblement de tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ dans les temps à venir, ceux qui seront sauvés, rachetés du péché. Et il dit ceci, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 21, verset 23, « La ville, donc ce lieu où tous les chrétiens seront rassemblés, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et donc, en fait, ici, l'apôtre Jean, dans notre passage, dit « Les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. » Pourquoi ? Parce que Christ est venu en chair et en os. Il a apporté le message. Et donc c'est comme si vous arrivez des taillades, vous voyez en allant vers les taillades, vous avez le Luberon, puis on voit que le soleil a commencé à percer. Il n'est pas encore haut dans le ciel, mais son premier rayon vient de jaillir au-dessus de la montagne et de nous éblouir. Ce premier rayon, c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir pour nous l'expiation des péchés et nous donner une vie nouvelle. Quand il y a la lumière, il y a la vie. Et la vie de Jésus est véritable. Elle est en lui, et si nous sommes en communion avec lui, c'est vrai aussi alors qu'elle est là en nous. Et donc c'est un commandement nouveau que je vous écris, dit Jean, verset 8, ce qui est vrai en lui et en vous. N'est-ce pas magnifique de réaliser que l'aube du jour de la libération finale est déjà maintenant en train de se lever. Et ça a lieu dans l'Église, par l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est la dernière partie que j'aimerais voir avec vous. Puisque nous sommes en communion avec Christ, nous allons aimer comme lui-même a aimé. Et de nouveau, il y a cette utilisation de Jean, donc des paroles de certains. Donc certains disent être dans la lumière. Et pourtant, ils détestent leurs frères ou leurs sœurs. Eh bien, ceux-là sont encore dans les ténèbres. Ils n'ont pas expérimenté la vie nouvelle de Christ en eux. Par contre, Et verset 11 aussi, donc c'est verset 9, verset 11. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Donc il est en train de vivre d'une façon qui ne rend pas gloire à Dieu, qui ne tire pas ses ressources de la vie de Dieu. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Cette semaine, dans les groupes de partage, on a vu la guérison justement de Bartimée. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire. Un homme aveugle de naissance qui était aux portes de Jéricho. Et puis Jésus est en route avec ses disciples, avec toute une foule pour aller à Jérusalem. Et lui, il entend que Jésus est en train de passer et il met sa foi dans Jésus. Et donc il l'appelle « Fils de David », ça veut dire « Toi le roi, toi celui qui a l'autorité ». C'est un titre qui était dans la Bible pour désigner celui qui est le roi choisi par Dieu. Il l'appelle « Aie pitié de moi ». Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Et Bartimée demande « Seigneur, s'il te plaît que je recouvre la vue ». Le Seigneur le guérit, lui redonne la vue. Il n'est plus dans les ténèbres maintenant, Bartimée. Et on le voit aussitôt se lever et se mettre à suivre Christ sur le chemin vers Jérusalem. La même chose pour nous. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et donc ça, c'est notre réalité avant de connaître Christ. Mais il est possible de crier au Seigneur Jésus, « Aie pitié de nous !» Et si vous êtes chrétien, si vous êtes en communion avec le Seigneur, si vous avez reçu le témoignage des apôtres, c'est ce qui vous est arrivé. Le Seigneur a ouvert vos yeux. Vous pouvez voir clairement maintenant. Et vous n'êtes pas en train de marcher dans les ténèbres. Et ça va se voir donc dans la manière d'aimer son frère. Verset 10. Celui qui aime son frère, c'est manifeste alors qu'il demeure dans la lumière. Et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Littéralement, c'est « en lui, il n'y a pas de scandale ». C'est le terme grec. Et on peut traduire un peu de deux manières différentes. En lui, il n'y a pas quelque chose qui cause la chute pour d'autres. On peut aussi traduire, et les deux sont là dans le grec, c'est un peu ambigu. En lui, il n'y a rien qui peut le faire tomber lui-même. D'accord, cette personne. Et ça, c'est un aspect un peu spécifique. Ici, de la manière dont Jean présente les choses. Quand on demeure dans la lumière, bien sûr, on va pécher, on ne va pas nier ce qu'on a déjà lu dans le chapitre 1, mais par contre, on va sans cesse vouloir revenir à la lumière. On va écarter du chemin les causes d'obstacles qui sont des causes d'obstacles non seulement pour nous, qui peuvent être des causes d'obstacles aussi pour nos frères et nos sœurs, parce que nous voulons les aimer, parce que nous pouvons maintenant les aimer, parce que la vie de Christ est en nous, parce que nous sommes dans la lumière, nous voyons clair ce qui est nécessaire de faire. Quand nous faisons ça, et si vous revenez juste avec moi au début du passage, verset 5, quand nous faisons ça, nous avons une grande assurance, parce que celui qui garde sa parole, donc celui qui vit dans la lumière, celui qui aime son frère et sa sœur, alors l'amour de Dieu est vraiment rendu parfait en lui, accompli en lui. Pourquoi ? Parce que c'est manifeste alors que cette personne-là a reçu l'amour de Dieu, que Dieu l'a aimé au point de le racheter, de le sauver. C'est aussi accompli parce que cette personne-là va matérialiser, si vous voulez, on va voir ça là un peu plus loin dans la première lettre de Jean, va mettre en pratique cet amour-là qu'il a reçu de Dieu, et ça va se voir. Cela est certain, c'est assuré. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment rendu parfait en lui. Est-ce que vous avez vu le souci pastoral de l'apôtre Jean ici ? Je suis en train de vous écrire, non pas pour vous décourager, mais pour vous encourager. Parce que vous pouvez évaluer les choses, et il faut le faire, parce qu'il y en a qui mentent. Il y en a qui ne sont pas dans la lumière, il y en a qui sont en train de marcher dans les ténèbres, et il faut faire attention. Et il ne faut pas s'illusionner soi-même, si on est en train de faire ça. Mais en même temps, l'apôtre Jean, il n'a pas de doute. Je vous suis en train de vous écrire ça, mais je sais que vos péchés sont pardonnés. Je sais que vous avez vaincu le mauvais, parce que je le vois dans votre manière de vivre. J'espère que le souci de l'apôtre Jean est clair, j'espère que le mien l'est aussi, et que vous pouvez repartir ce matin encouragé, non pas à douter en ayant passé ces tests, mais plutôt à voir comment en réalité c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie à tous. Et sans doute en train de le faire de plus en plus, de mieux en mieux. Sans doute qu'on est en train de progresser, sans doute qu'on a encore besoin à l'épec de parler encore beaucoup de l'amour, et non pas seulement d'en parler, mais aussi de chercher comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique, comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres à concrétiser cela. On va avoir un autre passage plus tard dans Jean qui nous encourage aussi dans ce sens-là. Mais en attendant, j'aimerais que vous invitiez à prier maintenant les uns pour les autres, pour que cet amour se développe au sein de notre communauté, et puis pour que nous puissions retirer tous ensemble de l'assurance de tout cela. C'est ce que je vais inviter à faire maintenant, si quelques-uns aimeraient prier pour nous tous.